Bic, 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 bic.
Tiens, c'est nouveau.
Un nouveau bic à quatre couleurs.
Bic, 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 bic. À quatre couleurs.
Du bleu, du rouge, du vert et du noir.
Bic, 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 bic. Comme c'est facile.
Un petit coup de pouce et voilà la couleur.
Bic, 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 bic. Quatre couleurs.
Du bleu, du rouge, du vert et du noir.
Bic, 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 bic. Le nouveau bic à quatre couleurs.
3 francs seulement.
Pascal Paradou.
Ainsi, la marque Bic faisait la pub de son stylo 4 en 1, stylo révolutionnaire, le 4 couleurs. C'était en 1969 et la télé était en noir et blanc. Depuis, le succès ne s'est pas démenti et Thomas Terraquet lui consacre même un roman, son premier roman, Bonjour.
Bonjour.
Et vous n'avez pas eu beaucoup de mal pour trouver un titre puisque votre livre s'appelle 4 couleurs.
Tout à fait.
Ce n'est pourtant pas le sujet du livre que l'histoire de ce bic qui pourrait donner lieu à un roman, j'imagine.
Non, c'est pas le sujet du livre. Je pense que dans le livre, le stylo 4 couleurs agit davantage comme un révélateur sur l'école, les choses étranges qui se passent à l'école et les difficultés très fortes dans lesquelles est plongée l'éducation nationale ces dernières années.
Alors ce 4 couleurs, quand même, il faut en dire un mot, c'est un stylo assez banal, mais c'est aussi un objet de culte dans les cours de collège. Et j'ai appris, en parallèle de la lecture de votre roman, qu'en effet, il y a beaucoup de vols, beaucoup de trafic dans les collèges autour de ce 4 couleurs. Vous savez pourquoi ?
C'est assez mystérieux, en effet. Pour les élèves, ce ne sont plus des stylos, c'est des objets de collection. Comme Bic en a fait tout un tas de déclinaisons plutôt marrantes, voilà, très diverses. Et les élèves aussi aiment bien les transformer, les customiser.
Mais ça fait du bruit, le 4 couleurs. Ça fait clic-clac quand on change de couleur. Ça emmerde un peu le prof. C'est peut-être pour ça aussi, non? Qu'est-ce que vous en pensez?
Honnêtement, moi, de ce que je voyais des élèves, c'est qu'ils ne jouent même pas tant que ça avec les mines. C'est vraiment collectionner des 4 couleurs avec des matières différentes. Il y a tout un tas de choses. Et généralement, ces 4 couleurs-là, ils sont même pas tant que ça dans les trousses, mais ils sont au fond des sacs, bien cachés. Et donc, on se les vole les uns les autres. Il y a des élèves qui peuvent avoir 25 stylos 4 couleurs au fond du sac.
Alors, en tout cas, ce 4 couleurs va être le fil conducteur du roman. C'est pas n'importe lequel, d'ailleurs. C'est un beau stylo noir chromé que l'un des élèves se fait voler. Et il va plus ou moins passer comme ça de main en main. En tout cas, pour vous, c'est vraiment l'occasion de raconter, j'ai presque envie de dire, le prétexte de raconter le quotidien d'un collège.
Oui, tout à fait. Le personnage principal, Obi, part de pouvoir magique ce stylo 4 couleurs et il a l'impression que quand il le perd, le monde se met à bugger. Mais en réalité, c'est grâce au stylo 4 couleurs qu'Obi se rend compte que le monde bug quoi qu'il en soit.
Alors, qui dit premier roman, puisque c'est votre premier roman, Thomas Terraquet dit présentation, et je vais vous faire remplir une petite fiche de renseignement comme à l'école. Vous avez quitté le collège quand, vous ?
Le collège ?
Ouais. Ah ben ça se passe bien au collège.
Oui, ça se passe au collège. Alors je me rappelle que j'ai quitté le lycée en 2007, donc moins 3 ans, ça fait donc 2004.
Et vous enseignez aujourd'hui ?
Et aujourd'hui, je suis enseignant.
Donc vous n'avez pas tout à fait quitté le collège ?
C'est très souvent ce qu'on dit des enseignants. Alors je pense que pour moi, c'est un petit peu différent parce que j'avais un rapport à l'école un petit peu contrarié. J'ai toujours été un élève relativement pas loin de médiocre quand même. Et donc, il n'était pas du tout évident pour moi qu'un jour, je me retrouve à devenir professeur. Soit il y avait un destin ou alors le hasard, tout simplement.
Vous êtes prof de quoi ?
Je suis professeur de français.
Comme par hasard.
Comme par hasard.
Dans votre biographie sur Internet, vous dites « Ne sait pas comment nommer son vrai métier, homme orchestre, raconteur, marathonien, professeur. »
Homme orchestre, oui, tout à fait. C'est parce que quand on est professeur, forcément, de français, il faut savoir tout faire. À la fois, il y a un côté battleur, comme l'homme orchestre. Homme orchestre, c'était Pierre Bergougnoux qui avait dans un petit essai qui s'appelait « École, mission accomplie », qui disait à la fin d'un chapitre que oui, le professeur de français était un homme orchestre. Et j'aime beaucoup ce mot.
Donc, voilà. Et raconteur, vous racontez des histoires. Vous avez l'impression que c'est comme ça qu'on enseigne, en racontant des histoires ?
plus je progresse dans mon métier, plus j'apprends des choses sur comment faire mon métier, plus j'ai l'impression qu'effectivement, c'est la grande fonction centrale de mon métier, raconter des histoires.
Et marathonien, ça, c'est pour dire que vous souffrez.
Non, parce que par exemple, les marathoniens prennent beaucoup de plaisir aussi dans cette souffrance-là. Donc non, je pense que, parce qu'effectivement, le professorat, c'est aussi une course de fond qui finalement ne s'arrête jamais. Et donc certes, il y a une part de souffrance inhérente au métier, mais il y a tellement de joies inattendues qui peuvent survenir à tout moment. Voilà. Mais l'aspect course de fond du métier est très net.
Et alors dans cette biographie sur Internet, vous écrivez aussi « Vie ». Ces temps-ci au Guatemala. J'aime beaucoup le ces temps-ci. C'est-à-dire, vous êtes de passage à Paris et vous repartez au Guatemala. Vous y êtes depuis combien de temps ?
Alors, j'habite au Guatemala depuis un an et demi. Actuellement, là, j'enseigne au lycée français de Guatemala. Et c'est très enrichissant. Il y a d'autres difficultés aussi dans le métier. C'est très différent.
Vous écrivez aussi sur Internet, toujours sur Internet, hein, c'est une source, que vous écrivez un journal furtif avec des notes, des bribes de traduction, des esquilles.
Des esquilles.
C'est quoi une esquille ?
C'est des petits morceaux d'os cassé, voilà.
Et donc vos textes sont comme des petits morceaux d'os cassé ?
Certains, ouais. C'est aussi pour dire que ce que je peux publier sur Internet, et notamment mon journal, à l'évidence, c'est pas pareil qu'un livre, c'est pas pareil qu'un roman. Et sans doute que ce que je fais sur Internet se soucie moins du lecteur que ce qu'on peut faire dans un roman. Donc c'est aussi peut-être une expression pour dire que je le fais, parce que chez moi c'est comme une espèce de course de fond, encore une fois, voilà, écrire en permanence, en tout cas le plus souvent possible. Mais l'importance de ces textes-là est quand même moindre. C'est pas les textes en eux-mêmes qui importent, c'est plutôt le mouvement qu'ils engendrent.
Donc l'écriture, pour vous, Thomas Ferraquet, c'est un exercice quasiment de santé quotidien. N'exagérons pas.
Non, en tout cas, je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Quand j'écris mon journal, je suis censé écrire mon journal tous les soirs. Bon, ces derniers temps, je le fais moins tous les soirs, mais en tout cas, il y a quelque chose de... Voilà, il faut se tenir au journal, il faut essayer de le faire le plus souvent possible. Je me souviens que Kafka disait la même chose aussi, que voilà, lui, il s'accrochait à son journal et qu'il avait l'impression que c'était comme ça qu'il allait s'en sortir.
C'est une discipline.
C'est une discipline, voilà, tout à fait.
Alors, vous aimez la photo aussi, vous en faites, et sur votre site, et après, on passera à autre chose. J'aime beaucoup celle d'un graphe que vous avez pris en photo, qui représente un boxeur avec cette légende, lutteur de classe. Vous êtes un lutteur de classe, vous aussi.
Je dirais pas ça comme ça. Je me rappelle que ça, c'était à l'occasion des Gilets jaunes, et cette photo que j'avais prise. Et en tout cas, j'ai beaucoup d'admiration pour ces gens, justement, qui sont capables de défier l'autorité, de faire valoir leur colère. Et ça, moi, sans doute que j'essaye aussi de le faire par l'écriture, mais en tout cas...
Oui, parce qu'il y a de la colère dans ce livre, dans Quatre couleurs. Écrire avec des gants de boxe, c'est simple ? C'est possible ?
Alors moi, je ne le fais pas.
Thomas Ferraquet, à vous qui aimez les ailleurs, je vous propose de découvrir un jeune chanteur d'origine malgache, J.E.R., que les auditrices et auditeurs peuvent découvrir avec Jeune Malagasy, un titre de son premier album.
Jeune Malagasy gothique chelou, toujours assis sur le même banc. K-pop dans le casque, les gens passent entendre le son fort comme dans mes tympans. Un peu plus proche des gens aux bras scarifiés que des gens populaires du bahut, cœur de meilleure qualité. Ça faisait BSO, Persan Sergi, toujours dans le même train. Au lycée, juste au cas où mon collègue m'offre un coup de poing américain. Juste au cas où. Un jour, quelqu'un capte que je balance des sons sur FB, me fait rapper dans le couloir, les gens se rament des restes où je vais. C'est qui ce chelou, c'est qui ce bouc? Je crois c'est le gars qui sourit jamais dans le bus, rien que ça guette mal les gens. Il a une pote qui pleure sans arrêt, toujours assis sur le même banc. Dubstep dans le casque, les gens entendent comme dans ses tympans. Jeune Malagasy gothique chelou, toujours assis sur le même banc. K-pop dans le casque, les gens entendent comme dans mes tympans. Jeune Malagasy gothique chelou, toujours assis sur le même banc. K-pop dans le casque, les gens entendent comme dans mes tympans.
Jeune. Les années se mélangent dans mon esprit, j'ai pas le temps de respirer. Je regarde tout d'un œil nostalgique comme si j'avais terminé. Mais c'est jamais terminé.
jeune Malagas, globe, trotteur, jeune zinzin, jeune shooter. Fils de génie, fils de cœur brillant, voile mon dent toute sa splendeur. À l'école, je voyais des que trucs, les gens ne pouvaient pas comprendre. Des dragons, des formes infinies, dans les murs, j'étais flat concentré. Toujours, toujours amoureux, jamais dans l'initiative. Pour moi, la vie, c'était
une hallucination collective.
Sous perfusion de Midnight Club, de pétition ou Budokai. Plutôt calme, tant que j'ai mes refs, ma famille, je m'en fous de la terre, je peux vivre autre part. Que les crânes rasés, des gros bras, des motos, des visages qui font taire. Après minuit, si t'as pas un coup, ce buveur d'Inano, tu finiras 6 pieds sous terre. Toujours assis sur le même banc. K-pop dans le casque, les gens entendent comme dans mes tympans. Jeune Malagas, gothique, chelou, toujours assis sur le même banc. K-pop dans le casque, les gens entendent comme dans mes tympans.
Jeune.
Les années se mélangent dans mon esprit. J'ai pas le temps de respirer. Je regarde tout d'un œil nostalgique comme si j'avais terminé. Mais c'est jamais terminé.
J.E.R. sur RFI avec un premier album intitulé « Mille nuits ». Entre deux voyages avant de repartir au Guatemala, Thomas Ferraquet est notre invité pour son premier roman « Quatre couleurs », référence au Bic, mais peut-être aussi aux différentes couleurs de peau des élèves de ce collège où se passe l'action, car sans le souligner particulièrement, sans le dire précisément, on comprend que vous nous décrivez un collège en zone prioritaire avec des gamins d'origine sociale et culturelle assez différentes. C'est une expérience que vous avez vécue ?
Oui, tout à fait, c'est une expérience que j'ai vécue. Après, c'est plus une œuvre de romancier qu'un témoignage sur l'école en zone prioritaire.
Mais pourtant, c'est quand même un constat de ce qui se passe dans ces écoles en zone prioritaire.
Oui, tout à fait. C'est une espèce de désespérance. Le début de ce projet-là était, ça aurait pas dû du tout donner un roman. À l'origine, je voulais écrire un essai sur l'école en éducation prioritaire parce que la question que je me posais, c'est pourquoi ça ne marche pas ? Parce qu'il suffit d'avoir travaillé ne serait-ce que quelques mois dans certains de ces établissements pour comprendre que les choses, globalement, ne marchent pas. Et moi, je me posais la question pourquoi ça ne marche pas ? Alors que, visiblement, l'État français met énormément d'argent dedans. Et donc, je me suis lancé dans l'écriture d'un essai et j'ai voulu... je me suis énormément documenté. Et petit à petit, il y a de la fiction qui est apparue. Et cette fiction-là a fini par tout manger, a mangé l'essai.
Et du coup, c'est l'histoire de Hobby, ce gamin qui se fait piquer son quatre couleurs. Mais il n'est pas le seul. Hein. Il y a aussi la dame qui fait l'entretien dans le collège. Et puis, il y a les profs. Il y a le vieux prof, Monsieur V, et Madame E, la remplaçante. Et alors, l'un et l'autre, c'est assez intéressant parce qu'ils sont à l'opposé exact, à la fois dans leur vie professionnelle et dans leurs convictions.
Je ne sais pas s'ils sont vraiment à l'opposé. Je pense que dans le roman, on perçoit Madame E par le prisme de Monsieur V. Et Monsieur V a tendance à idéaliser Madame E et à jouer sur ses contrastes pour se déprécier lui-même. Mais...
C'est-à-dire que Madame E, elle arrive et puis elle réussit à convaincre les élèves d'être sages, d'apprendre. Elle est pleine d'enthousiasme quand Monsieur V, voilà, les bras lui sont tombés depuis bien longtemps. Il est abattu.
Voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que comme Madame E, elle débute, elle a cet enthousiasme-là que n'a plus Monsieur V.
Et qu'il a eu.
Et qu'il a eu.
Puisqu'il y a un léger flashback et vous dites Monsieur V il y a longtemps. Et Monsieur V il y a longtemps était un jeune prof plein d'enthousiasme qui ne rêvait que d'une chose, c'est de faire son entrée en classe et de dire « Bonjour, je suis votre nouveau professeur de français ».
Tout à fait. Et est-ce qu'on peut dire que Monsieur V a échoué ? Je pense lui, il est, a priori, là maintenant, il a échoué. Mais cet enthousiasme que les professeurs ont en débutant, je pense que c'est le cas de l'immense majorité des professeurs. Et après, dans certains cas, cet enthousiasme-là peut s'étioler.
Bah, il y a quand même une crise des vocations assez spectaculaire. On a lu récemment les chiffres qui ont été donnés. En 25 ans, le nombre de candidats au concours de l'enseignement a chuté de plus de 75%. C'est énorme quand même.
Oui, mais je n'ai pas de réponse à apporter précisément sur ce sujet-là. Ce que je sais, c'est que professeur, moi personnellement, c'est aussi un métier qui m'a apporté des joies indescriptibles. Pourquoi aujourd'hui est-ce qu'on ne veut plus être... les gens veulent moins être professeur ? Pour être honnête, c'est des questions qui me dépassent.
Mais vous faites quand même le récit d'un grand gâchis, d'un grand délabrement, des ordinateurs en panne, plus d'argent pour les polycopiers, deux agents d'entretien en moins sur une équipe de cinq, une crise de l'autorité monumentale, et puis ce grand découragement des profs qui n'a pas l'air de vous atteindre, mais que les chiffres révèlent aussi quand même, non ?
Mais si, ça m'atteint, tout à fait. Je pense que si ça ne m'atteignait pas, je n'aurais pas écrit ce livre. Pour ce livre, je voulais essayer de développer une esthétique. Je voulais essayer de raconter l'école, mais d'une autre manière, d'une manière voilà, avec des mots qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'utiliser, un jeu sur les différents langages qu'on n'a pas toujours fait, et sortir des récits un petit peu convenus entre le prof, l'élève. J'espère avoir réussi.
Alors, on va parler de votre style, Thomas Ferraquet, mais avant, j'aimerais vous faire entendre François Bégaudeau, parce qu'avant vous, il y a beaucoup d'écrivains qui ont été profs, d'ailleurs, qui ont écrit sur le quotidien des collèges et des lycées, dont François Bégaudeau, avec ce livre qui a donné lieu à un film ensuite, qui s'appelle Entre les murs, qui a été écrit il y a 20 ans. Hein, et c'est un roman assez implacable, mais aussi assez drôle.
Là où il y a du rire, il y a de la vie. Il y a de la vie, il y a de l'énergie. Le livre se termine par énergie. Et je ne sais pas où iront ces élèves. Certains sont condamnés socialement. En tout cas, dans le sillon scolaire, ils ne feront rien. Mais ce que je sais, c'est qu'ils ont de l'énergie. Ils ont quelque chose à revendre. Cette énergie, elle se canalise mal parfois. Parfois, elle s'oriente dans des drôles de discours un peu douteux. Mais il y a de l'énergie. Et c'est avec cette matière énergie que j'ai fait le livre. Alors après, c'est désespérant. C'est compliqué. C'est une réalité difficile, l'école, parce que surtout l'école dans les quartiers populaires. Parce que l'école, elle a été faite pour les bourgeois. Et donc, en gros, qu'est-ce que c'est que d'être du peuple à l'école? C'est être condamné, en tout cas être voué à s'inscrire dans un moule, à rentrer dans un moule dans lequel, en fait, on rentrera jamais, parce qu'il n'a pas été conçu pour nous. Et c'est ce hiatus-là qui m'intéresse, moi, dans les collèges populaires. C'est bien pour ça que je continue à enseigner.
Oui, mais ça veut dire que c'est l'échec de l'éducation nationale.
Oui, c'est son échec, mais en même temps, moi, pour moi, ce n'est pas une source de désespoir. Quand je vois cet échec-là, je dis, mais c'est presque normal que ça échoue. Ce serait presque étonnant que ça réussisse. Que dans ces murs-là, on arrive à épanouir des élèves pour qui ils n'ont pas été faits. Et donc, il y a un gros défi devant nous que je trouve excitant.
Thomas Terraquet, est-ce que vous partagez la même analyse que celle de François Bégaudeau?
Oui, globalement, je partage son analyse. Après, dire que l'idée que est-ce que vraiment y a des élèves qui sont vraiment complètement inaptes à l'école et que de toute façon, quoi qu'il se passe, on ne pourra rien pour eux. Je pense que dans le livre, c'est justement le constat en fait, que font Monsieur V ou le CPE, par exemple. Et je ne suis pas sûr de ça. Et je pense que c'est cette espèce d'abandon, du fait d'arrêter de prendre soin des élèves qui sont aussi des enfants, que les catastrophes surviennent.
Alors, cette énergie, quand même, dont parle Bégaudeau, on la retrouve dans votre livre, et notamment avec ce personnage de Hobby. Mais c'est plutôt une fureur. On n'a pas encore parlé vraiment. C'est qui, ce Hobby? Vous dites que c'est un Gaulmont. C'est quoi un Gaulmont?
Ouais. Gaulmont, c'est le nom que les élèves peuvent employer entre eux. Donc, c'est le verlan de Mongol.
Mongol, ouais.
Et souvent, les élèves ont tendance à se déprécier, les élèves en difficulté scolaire, et ils peuvent dire que bon, ils ne réussissent pas à l'école parce qu'ils n'ont pas ce qu'il faut dans la tête. En réalité, on sait tous très bien que l'école aujourd'hui, elle montre seulement est-ce qu'on est capable de se conformer à ce qu'elle demande. Mais c'est...
Et celui-là, non, il est plus rebelle que ça.
Il est plus rebelle que ça, il a aussi une étrangeté en lui-même. Mais je pense que Hobby, ce serait trop facile de le mettre de côté et de dire « bon, lui, c'est quelqu'un d'étrange, on ne comprend pas ce qu'il fait, on ne comprend pas ce qu'il pense, il imagine des formes dans les nuages, il fait la course avec les avions ». Je pense que Hobby, il est très proche d'énormément d'enfants et peut-être même aussi proche de l'enfant que j'étais. Et voilà, je pense qu'il ne faut pas mettre Hobby de côté en disant juste « c'est quelqu'un d'étrange ».
Donc on lui vole son stylo, il pense que le monde bug à cause de ça. C'est faux mais c'est vrai en même temps, parce que tout va déraper. Vous racontez l'histoire d'un grand embrasement. Alors je ne sais pas si on raconte la fin du livre, mais c'est un grand embrasement.
La fin, c'est un grand embrasement, mais qui est amené par le fait que... Chacun des personnages, on finit par abandonner ou par faire les mauvais choix. Le professeur, Monsieur V, finit par laisser tomber Hobby, par laisser tomber ses élèves. Jocelyne, qui est l'agent d'entretien à force de brimades, elle finit par cesser de prendre soin du collège, du bâti et des élèves. Et Hobby lui-même, à force qu'on ne prenne pas soin de lui et qu'on n'arrive pas à le comprendre, il se laisse aller dans sa colère. C'est ce que je remarque moi aussi, souvent les catastrophes scolaires, c'est la suite d'une série de tout petits abandons qui, à la fin, aboutissent à la catastrophe.
Thomas Terraquet, j'aimerais que vous nous lisiez un extrait de votre livre, de votre roman « Quatre couleurs », puisque vous parliez, et on va parler du style.
Mardi, 7h40. Le vide pèse lourd dans la salle à 7h40. Mais nul âme qui vive pour le constater, à l'exception de Monsieur V, bientôt, qui approche. Qu'on entre et on devinera les fantômes, l'évidence des milliers d'âmes furieuses qui se sont succédées ici depuis des temps immémoriaux, qui s'agitent, se rencoignent au mur, hurlent qu'on leur fasse une issue. Lumière, reflet sur le tableau blanc des rangées de chaises et de tables, sol encore jonché des feuilles arrachées la veille, corps des crayons brisés, coulures d'encres et plastiques divers, toutes traces des batailles sans fin. Derrière l'ourlet des tables branlantes, renserrés des chewing-gums durs comme la pierre, et au-dessus, tous les nictamères, la police, sale michto ou le snap de tel ou tel, enfin des crevasses fouillées à la pointe du compas et des traits rageurs arrachés à l'ennui. Il entre.
Thomas Terraquet, il y a dans votre écriture, on vient de l'entendre, un rythme assez vif. Ça va vite. C'est presque comme un travelling de cinéma. Il entre.
Moi, je suis assez cinéphile, donc effectivement, je pense que le cinéma a irrigué mon écriture, notamment le cinéma américain qui use beaucoup des travelling. Effectivement, j'ai voulu un style assez vif et également assez dense, que les mots pèsent lourd, en tout cas, et leur poids. Voilà, donc,
et il fallait que ça claque.
Il fallait que ça claque, oui. Si on aime bien le style et la littérature, oui, il faut que les mots claquent.
Et le roman est assez court. C'est lié ? Parce que vous avez beaucoup coupé, parce qu'il fallait que ça aille vite, parce que c'était comme un embrasement, justement ?
Voilà, oui, je crois qu'il fallait que le livre se tienne, puisse être lu en une heure ou deux, que tout reste dans la tête du lecteur en même temps.
Et on entend les mots de Monsieur V, de Hobby, de Jocelyne. On entend ce qu'ils disent, ce qu'ils se disent. Quelle est la place de l'oralité dans votre écriture ?
Ah bah elle est extrêmement importante. J'ai beaucoup travaillé les voix pour que les personnages aient une identité propre et qu'on sente les différences de langage entre les personnages. Et aussi utiliser cette langue très orale que le prof et l'élève utilisent, parce que Monsieur V ne parle pas un français extrêmement châtié, je pense, comme la majorité des professeurs de français ne parlent pas un langage extrêmement châtié.
Comment ça ?
et c'est assez normal. Et donc, je voulais essayer d'hybrider toutes ces voix, les mettre ensemble pour en faire une patte peut-être un peu nouvelle.
Vous empruntez aussi au langage des jeunes, enfin ce langage un peu comme ça, vulgaire, on va dire. Rien à carrer, il s'en bat les steaks. C'est une évidence ou vous avez hésité ?
Si, c'est une évidence parce que ce langage-là, je l'entendais très, très souvent. Parfois, moi aussi, j'emploie des mots qui ne sortent pas de l'Académie française. Et ce qui m'intéressait, c'était justement de mélanger les différents langages, autant une langue beaucoup plus littéraire, peut-être un petit peu classique, avec des mots, des expressions beaucoup plus vulgaires, et jouer sur les sonorités, les mélanger ensemble et voir ce que ça donne.
Alors, ce livre est dédié aux enfants et aux adultes des pauvres écoles. Alors, si on parle d'expression, qu'elle soit jeune ou vieille, Lucie Bouteloup sort de sa boîte, comme toutes les semaines, c'est la puce.
La puce à l'oreille.
Bonjour Lucie.
Bonjour Pascal. Alors, quelle est votre couleur préférée ?
Quelle question. Noir, bleu ?
Oh bon, ça commence mal. Et si je vous parle de rose ?
Rose ou rose ?
C'est assez petit détail, oui, qu'on entend votre accent. Qu'est-ce que ça vous évoque ?
Rose, celle que je vais vous offrir à la sortie de ce studio.
Oh, j'adore qu'on m'offre des fleurs. Alors ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler de l'expression « découvrir le poteau rose ». On en parle avec Benjamin Rouxel, qui est lexicographe aux éditions du Robert. Poteau rose ou poteau rose ?
C'était la question.
Est-ce que vous entendez la nuance ?
J'entends tout à fait la nuance.
On voit ça tout de suite avec...
Les enfants.
Je pense que quand t'as découvert le poteau rose, ça veut dire que soit t'as gagné l'auto ou t'as gagné le jackpot. Et donc t'as beaucoup d'argent vu qu'un poteau rose, il n'y en a pas souvent. Et c'est rare de gagner au loto.
Pour moi, ça veut dire avoir découvert la solution d'un problème. Par exemple, dans les énigmes, dans les films, parfois on dit « Yes, j'ai trouvé le poteau rose !» Parce que t'avais des roses mais pas de peau.
Moi, je connais un poteau noir, c'est un truc dans la mer, il y a souvent pas de vent. Et rose, ça me fait penser à avoir la vie en rose. Du coup, tu as passé avec du vent. Quand on découvre le pot rose, ça veut dire qu'il y a eu quelqu'un qui a été mort à cet endroit, parce que en général, quand il y a des enterrements, on pose des fleurs. Et donc, quand on découvre le pot rose, on découvre un mort.
Tu découvres un endroit secret où tout est rose. Comme si tu allais dans un pot où toute la vie est en rose. Comme voir la vie en rose.
Bonjour Benjamin Roussel.
Bonjour Lucie.
Alors, une réaction aux propositions des enfants. Est-ce qu'ils ont découvert le jackpot?
Certains sont allés très très loin dans l'imagination. Donc non, c'est pas le jackpot, c'est pas non plus la découverte d'un mort. Hein. Ça, c'était assez un peu lugubre. Donc il y en a un qui a parlé de la solution à une énigme. En effet, ça, on se rapproche un peu du secret. Une autre qui a parlé, une jeune fille qui a parlé d'un endroit secret. Donc on n'y est pas encore. On n'a pas encore découvert le poteau rose.
Alors qu'est-ce que ça veut dire découvrir le poteau rose?
Alors découvrir le poteau rose, c'est mettre à jour le secret, mettre à jour un secret, découvrir le secret d'une affaire, d'une intrigue, la supercherie. Voilà, il y a une connotation légèrement péjorative parce qu'en général, c'est un secret qui est tenu par honte, par peur de représailles.
C'est une expression qui est encore très utilisée. Hein. De quand elle date?
C'est vrai qu'on la trouve encore aujourd'hui hein, utilisée. Donc elle est apparue d'abord sous la forme « découvrir le pot ». Donc on ne parlait pas encore de rose, et ça c'était en 1180. Ensuite, il y a eu le poteau rose au XIVe siècle. Il y a eu également une autre variante qui était découvrir le pot pourri, mais qui elle n'a pas perduré, elle est sortie de l'usage complètement.
Bon alors, cette expression quand même, elle a donné du fil à retordre aux linguistes. Il y a énormément d'hypothèses, on va en citer quelques-unes. Je pense par exemple à la première qui fait référence, elle, au pot de fleurs.
Oui, donc en effet, il y a cette hypothèse. On dit que certaines femmes laissaient un pot de fleurs, un poteau rose sur le balcon ou sur le rebord de la fenêtre pour que leur amant puisse, voilà, en passant, glisser très discrètement un billet d'amour, un joli message sous le pot. Et forcément, il ne fallait surtout pas que le mari découvre le poteau rose, parce que là, sinon, c'était le drame. Le secret était dévoilé.
Alors, deuxième hypothèse, le pot au rose au singulier, qui cette fois-ci ferait référence au fard à joues, le pot au rose comme le rose à joues en fait.
Exactement, oui, c'est cela. Il y avait aussi l'eau de rose que les femmes utilisaient pour prendre soin de leur teint ou pour se parfumer. Et donc lorsqu'on découvrait le pot au rose, en fait, on découvrait le secret de la beauté des femmes. Et il faut savoir que dans ce contexte, découvrir n'a pas le sens moderne qu'on lui attribue aujourd'hui de trouver, mais découvrir avant le XVIe siècle, c'était vraiment soulever le couvercle, ouvrir le pot, et donc voilà, c'était on dévoile le secret et en même temps on laisse s'éventer le parfum de la rose.
Et puis il y a une autre hypothèse qui cette fois-ci date du XIXe siècle, la rose serait un terme d'alchimie.
Oui, en effet, pour les alchimistes, là c'est la rose minérale qui désigne une poudre d'or et de mercure et qui rappelle en fait la pierre philosophale. Et donc pour les alchimistes, c'était c'est la rose minérale, un peu comme la pierre philosophale, c'était un sujet de grand mystère. En fait, il faut dire que la rose, c'est une fleur à laquelle on a attribué beaucoup de symboles. Et c'est cela qui rend un peu compliqué le fait de décortiquer cette expression.
Alors qu'est-ce qu'on peut trouver comme synonyme à découvrir le pot aux roses? Découvrir le fin mot de l'histoire, par exemple?
Oui, on lève le voile, on découvre la supercherie, on évente la mèche également.
Merci beaucoup Benjamin Roussel de nous avoir révélé les secrets de cette expression. Une expression que vous pourrez retrouver, ainsi que toutes les précédentes, sur le site françaisfacile.rfi.fr, mais également sur le blog des éditions Le Robert, dis-moi Robert. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, autour d'une nouvelle expression en votre compagnie, Benjamin. À très bientôt.
Merci Lucie.
Merci Lucie, merci à vous Thomas Terraquet. Cette expression, c'est un peu vieux style, non? Est-ce que vous l'entendez dans les collèges, le poteau rose? c'est pas du tout ça. Hein.
Probablement pas. Après, il y a aussi des élèves qui sont très cultivés, qui viennent de cultures très différentes. Et ce serait pas impossible d'entendre un élève employer l'expression le poteau rose.
Merci Thomas Terraquet. Quatre couleurs, votre premier roman est donc édité au Nouvel Attila. De vive voix, Pascal Paradou, programmation Cécile Labolo, Laura Pinto à la réalisation. Et bien sûr, on se retrouve demain.